t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs.
Hey, you talking to me?
Vers l'infini et au-delà.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim, le site de référence quand on a envie de parler films, séries, livres, jeux de société. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de séries télé ou de séries en streaming. Autour de la table avec moi, on a Chenin. Salut.
Salut.
Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
The Haunting of the Hill House.
L'approche d'Halloween, une petite série horrifique. Juke, salut Juke.
Salut.
Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui?
Je vais vous présenter Raised by Wolves.
Bien de t'entendre sur le sujet, j'ai pas eu l'occasion de la regarder encore cette série. Et ATL Zeda, autour de la table, toi tu vas nous parler
de The Boys.
Série d'actualité du coup, et Monsieur Lours, pour vous servir, je vous parlerai d'une série qui n'est pas trop nouvelle, mais qui est un petit peu un de mes gros coups de cœur de cette année, qui est la série sur les Imagineurs des parcs Disney. Mais avant de rentrer dans le dur du sujet, on va faire un tour de table pour savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce que vous avez vu ces derniers temps. Chenin, qu'est-ce que tu as vu très rapidement, en quelques mots
Rapidement, cette année, j'ai vu Lock and Key pendant le confinement, ça tombait bien. Umbrella Academy saison 2. Dead to Me, petite série sans grand intérêt, mais voilà. Et puis, je suis très plongé dans Community. C'est une série comique.
Ouais, très très bonne série. Effectivement, j'avais pas tilté Lock and Key et le confinement. Très très bon, très très bonne série à regarder. Ouais. Juke.
Pas mal de séries dernièrement. J'ai fait Umbrella Academy. Il m'a fallu un deuxième élan, mais j'ai fini par la regarder. Death, qui est beaucoup moins connue, qui est une mini-série en 3 épisodes anglaise sur un serial killer qui a existé, écossais. Avec un David Tennant qui joue le serial killer et qui est monstrueux dedans. Vraiment très très bon. Et en ce moment, je regarde Away, je regarde la série sur les Mercury 7 qui s'appelle The Right Stuff, qui est en fait la série qui reprend le film Let of the Hero. Voilà. Voilà pour les séries que je suis en ce moment.
Ok, ça marche. À tel heure.
Moi je viens de finir Engrenage. Finir au sens.
C'était la dernière saison.
Ouais, c'était la dernière saison. Donc, c'est bien. La saison 8 est bien comme d'hab, mais ça s'est soufflé aussi. Donc, c'est bien que ça s'arrête. Ils n'ont pas trop raté leur fin. Donc, voilà, on la voit partir au loin avec émotion.
Mais
c'est bien. J'ai voulu relancer la saison 3 de Westworld. Mais avant, j'ai regardé un résumé de la saison 2 et je me suis rendu compte que j'avais rien compris. Du coup, j'ai quand même regardé l'épisode 1 de la saison 3 et j'ai rien compris. Donc, en fait, je vais arrêter là. J'arrête les frais parce que ça ne vaut rien.
Ouais, d'accord, ok.
Je repars pas. Et du coup, je pense que là, je vais attaquer The Third Day, la nouvelle série avec Jude Law.
Ah oui, sur OCS actuellement, ouais.
Ou je vais essayer Good Lord Bird aussi, sur le début de la guerre de sécession,
oui.
Qui avait une bande-annonce hyper intéressante.
Avec Ethan Hawke dans le rôle principal. Ouais.
Ok, d'accord. Donc, assez éclectique. On passe du journalisme, d'investigation à la guerre de sécession.
On part de Netflix à Amazon aussi.
C'est vrai.
C'est ça.
Alors moi, bizarrement, je suis venu aujourd'hui avec assez peu de recommandations parce que j'ai passé mon temps à finir des séries qui m'ont déçu ces derniers temps. Alors j'ai fini la saison 3, la saison 2 même du coup de Star Trek Discovery. J'ai quand même réussi à aller au bout. La saison 3 commence d'ailleurs mi-octobre à l'heure où on parle. Ça sort bientôt.
T'avais pas déjà dit que c'était difficile la saison 1 ?
On a fait un épisode.
Une grande question sur cette série, c'est est-ce que c'est mieux après la saison 1 ? Parce que moi j'avais fait la saison 1 et que j'avais trouvé catastrophique. Enfin catastrophique, non. J'exagère, mais elle était pas bonne.
En fait, non, elle garde les défauts et les qualités de la saison 1, c'est-à-dire que c'est une série qui est friquée, qui visuellement, à l'écran, vraiment est impressionnante, aussi bien en termes d'FX, de costumes, de galeries, d'univers, on va dire, présentés, mais par contre, c'est écrit avec les pieds. Et, alors la saison 2 tourne autour du voyage dans le temps, donc il y a un truc qui est cool, et ça se termine sur... vraiment une ouverture vers quelque chose qui est assez inédit dans l'univers Star Trek, on va dire. Donc, je vais essayer de... En fait, je m'étais arrêté au milieu parce qu'il y avait un gros trou, quoi. Forcément, les derniers épisodes sont un peu accrocheurs, donc ça m'a relancé pour la saison 3, mais voilà. J'ai fini, grosse catastrophe, The Man in the High Castle sur Amazon Prime. La fin de la série est vraiment une catastrophe. Vraiment, on sent que... enfin, ça donne vraiment l'impression qu'ils ont, voilà, ils ont voulu terminer le plus vite possible.
Je crois pas que ça m'ait tant choqué que ça. Je l'ai fait il y a plusieurs mois à la fin. Là,
d'accord, ok, ouais. Ben, je trouve que vraiment, ça se conclut sur, en fait, ouais, ça se conclut sur un truc qui n'a, je trouve, pour moi, pas de sens dans tout ce qu'ils ont fait au, sur les précédents épisodes et le concept même de la série. Mais en fait, j'ai pas compris la fin, quoi. Au-delà de la manière de la gérer, je me suis vraiment demandé ce qu'ils voulaient faire avec ça. Mais voilà, la série reste sympathique, mais je trouve qu'il y avait vraiment de l'ambition et ça s'est tombé un peu à plat. Et j'ai fini aussi la dernière saison en date, qui doit être la 3 de The Handmaid's Tale, qui pour le coup, là aussi, est pas forcément décevante, mais on va dire que la série ne se renouvelle pas particulièrement. Elle trouve toujours une manière d'introduire et de conclure ses saisons d'une manière un peu excitante, mais au milieu, il y a vraiment un trou qui est on va maltraiter notre héroïne, et c'est un peu que ça, quoi.
Moi, c'est une série que je regardais d'un œil quand une personne que je connaissais que la regardait. Mm-hmm. Je la regardais vraiment du coin de l'œil, et c'est vraiment la sensation que j'avais, c'était. Bon, qu'est-ce qu'on lui fait arriver quoi à l'héroïne pour pouvoir pousser le scénario.
C'est ça.
Et je trouvais que c'était très mécanique comme façon de faire. C'était pas bien amené, c'était vraiment il lui arrive une merde et on déroule. C'était la sensation que j'avais.
Ils avaient moyen de bien terminer quand elle pouvait fuir avec le bébé.
À la fin de la saison 2, du
coup. Ouais, c'est. Bon, nous, on a regardé la 3 et. Oui, c'est toujours. Il y a un ventre mou au milieu, bon, on la regarde quand même, mais c'est plus ça, c'est. Ils avaient bien amené une fin, et quelque part, on se dit, tiens, s'ils arrêtent maintenant, c'est propre, c'est net, et c'est sans bavure, et puis bon, tu fais, ah, ça repart. Bon, alors au final, quand elle revient, tu regardes quand même, mais.
Alors, il y a un truc qui traite quand même très bien, je trouve, c'est le fait de parler d'un pays qui a changé de régime totalement, de l'intérieur et de l'extérieur, du point de vue des gens qui ont fui ce pays, et qui, du coup, veulent traîner en justice les dirigeants de ce nouveau régime, quoi. Et ça, on te le montre bien. Notamment dans la saison 3, il y a vraiment une grosse évolution par rapport à ça, et j'espère presque que la série, en fait, ira dans un rétablissement, parce que du coup ça se passe aux États-Unis, un rétablissement de l'administration classique aux États-Unis, et de montrer l'après, en fait, comment un pays se remet, c'est presque un peu un pays qui a, nous, en café mode... Café sécession, ou alors on peut imaginer la France d'après-guerre, quoi. Comment les gens retrouvent un quotidien, comment tu regardes ton voisin qui a... fait des exactions, mais qui n'est pas inquiété, et comment tu revis. Enfin, il y a un truc à faire là-dessus. Je ne sais pas s'ils iront là, mais.
Faut qu'ils arrivent à se détacher de leur héroïne et à la rendre plus politique, je pense, la série.
Peut-être, quoi.
Elle est tellement iconique aussi dans la série, ça va être compliqué de la.
L'actrice est bonne, Et j'y pense quand même, parce que du coup, là, je peux faire cette recommandation, même si c'est la deuxième fois que je la regarde, donc j'y pensais pas comme ça, mais je suis en train de regarder The Legend of Korra, qui est du coup la deuxième itération animée de l'univers de l'Avatar chez Nickelodeon. Donc c'est c'est ce héros qui manipule les éléments. M. Night Shyamalan en avait fait un film de triste mémoire, on va dire. Et donc il y avait eu une première série avec un héros, jeune héros, le crâne rasé un petit peu en moine là. Et puis ils en ont fait une deuxième itération qui est donc la nouvelle Avatar de cet univers, on va dire, et qui s'appelle Legend of Korra, et qui est vraiment excellente parce que chaque saison traite d'un problème en particulier, d'une thématique sociétale en particulier, et du coup je la trouve hyper intéressante et hyper riche, en plus d'être visuellement super sympa. C'est dispo gratuitement sur France Télé, donc accessible sur Internet, et moi je le regarde via ma télé, via mon navigateur, dans du coup une télé Smart TV, mais ça fait le taf, franchement, le lecteur est pas si mal. Okay. Donc,
redis le nom, parce que...
The Legend of Korra.
Legend of Korra.
Ouais.
Korra Exploratrice.
Alors, non, mais c'est aussi effectivement une femme forte dans un univers d'aventure, on pourrait peut-être la lier comme ça. Mais voilà, effectivement, ces derniers mois, un petit peu, quelle a été les séries que j'ai regardées, donc j'ai foi en l'année 2021 pour...
Il y a pas mal de trucs qui sortent, hein.
Ouais.
En ce moment, ça bouge pas mal, quoi. Il y a des séries en plus qui vont arriver, qui sont très attendues, Fondation, tout ça. Donc,
c'est ça.
Des séries que des films.
Je viens de faire un ménage de fou dans ma watchlist, là. Tous les épisodes que j'avais à voir, il y avait plein de séries où les saisons sont sorties, même il y a un an ou un peu plus, et que j'avais pris le temps de regarder, j'ai fait le ménage hein, sur des trucs qui étaient à la base hyper bien. Fargo, bon voilà, saison 3, j'ai pas réussi à me lancer, True Detective non plus. Et j'ai passé pas mal de temps ces derniers temps à faire ça, à dire ouais, celle-là, de toute façon, je la reprendrai jamais.
Ouais. Oui, des fois, il faut accepter de.
Quand ça fait un an et des brouettes, ou plus que la saison est sortie et que finalement, tu ne l'as pas regardée, le temps de te dire, bon, c'est peut-être que finalement, j'ai plus envie de regarder cette série.
C'est le choix que j'ai fait, comme beaucoup, je pense, avec The Walking Dead notamment, que j'ai arrêté.
Donc, je ne reprendrai
pas. Ou Game of Thrones.
Game of Thrones, j'étais où quand même. Mais le préquel a avancé, là, ils ont ressorti quelques infos.
Il y a le début de casting, je crois.
Ouais, début de casting, ouais. J'ai regardé les 15 premières minutes de l'épisode 1, je sais pas trop, quoi. Pour l'instant...
Oui, il y a un épisode 1 qui est sorti.
De The Walking Dead World
War. Ah,
The
Walking Dead, du spin-off de Walking Dead.
On était sur Game of Thrones, j'ai vu que le casting, toi t'annonces à l'épisode 1, quoi.
Non, Walking Dead, ils sont en train d'exploser en termes de spin-off, ils en font partout.
Ouais, mais c'est ce qui tue l'univers, quelque part.
Probablement.
Ouais. Moi, j'arrête parce que la fin de saison n'arrive pas. Ils ont dit, la 10, c'est la fin de la série. J'aurais regardé la 10, quoi.
Ouais.
Et puis là, en fait, j'en ai marre, je suis dans le ventre-mou du milieu de la 10, et je me dis, non, mais en plus, il y en aura une autre derrière, quoi. J'arrête.
Très bien, messieurs, merci pour ce tour de table. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de l'émission, et on va commencer par toi, Atel Zeda, puisque c'est peut-être toi qui as regardé la série la plus récente, on va dire, terminée en tout cas récemment.
Ouais, je suis sûr que je ne suis pas le seul à l'avoir regardé, pour le coup.
Oui, effectivement, je pense qu'on est quelques-uns autour de la table. Tu vas nous parler de The Boys.
Ouais, donc je vous parle effectivement de The Boys, qui est diffusé sur Amazon Prime Video. Qui est assez populaire, hein. Je crois que donc c'est maintenant dans les séries, c'est peut-être là où dans les séries les plus regardées sur Amazon, un vrai succès. Donc le pitch rapidement, en gros, il y a les super-héros, donc c'est une série qui est basée donc sur un comics, donc on trouve l'univers des super-héros, sauf qu'en fait c'est pas les super-héros un peu habituels, c'est des mecs qui ont certes des pouvoirs, mais qui font ça plus pour l'argent, pour la réputation. Ils n'ont de super-héros que leur pouvoir, parce que fondamentalement, ce n'est pas des gens bien. Hein, ils sont vénaux. Vénal, un chacal, des chapeaux. Et ils sont même carrément malsains, voire méchants, dans leurs actions et dans leur quotidien. Hein, violer, ça ne les embête pas. Tuer, encore ça. Moins. Ils vont souvent tuer par négligence, ou par accident, ou carrément volontairement. Si ça sert pas leur image, si ça sert pas leur carrière, donc ils sont on va dire chapeautés donc par Vogue International, qui est une sorte de boîte de big pharma quoi, qui les chapeaute et gère un petit peu comme une agence, comme des agents de stars, leur carrière. Et donc à l'opposé, on a un groupe de anti-héros, donc les The Boys. Qui ont pour objectif de faire tomber ces héros-là en un peu révélant au monde que ces mecs-là ne valent rien. Sauf que fondamentalement, ils valent pas beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'est pareil, ils ont pas trop de problèmes avec le massacre et le meurtre. Ils ont peut-être l'aspect financier en moins.
Oui.
Donc voilà, donc on a une guerre héros anti-héros où finalement tout le monde est anti-héros là-dedans. Enfin, les gentils sont les méchants sont les gentils, donc voilà, globalement. Après, voilà, on a toute une panoplie de personnages, donc avec les héros qui ont tendance à reprendre les traits des héros classiques des univers de comics, hein. On a un équivalent à Wonder Woman avec Queen Maeve, on a un équivalent à Superman avec Homelander, on a Flash, ils sont tous là, donc voilà, sauf qu'ils sont, on va dire, bien dégradés, en tout cas dans leur image, dans cette série-là. Donc la série, elle est tirée d'un comics, donc qui est un comics qui a été écrit par Garth Ennig. Alors c'est un mec qui a travaillé sur Preacher, qui est aussi dans le style anti-héros,
ouais.
Mais il a travaillé sur Batman, sur Hulk, sur Punisher, donc il a un petit peu de background. Ça avait été d'abord édité chez DC Comics, et puis bizarrement, ils ont trouvé que ça passait pas trop avec leur univers habituel, et du coup, ça a été, je sais pas, cédé, revendu à Dynamite Entertainment.
Ils ont dû aller chez DC Comics.
Que je connais pas.
Ils sont forts chez DC Comics. Quand ils ont un succès, ils sont forts pour les.
Et le fait est que, bon voilà, l'auteur a dit, lui-même dit que le changement d'éditeur lui avait permis de donner de l'ampleur à sa série, puisque en gros, il pouvait aller taper tranquillement sur les petits copains, quoi. Donc voilà, on avait eu la saison 1 de la série qui était parue en 2019 sur Amazon Prime, qui avait été une vraie un peu révélation, parce que la série est arrivée avec ce pitch-là, avec sa réalisation qui est quand même trash, très explicite. C'est violent, c'est sanglant, c'est aussi un peu c'est sexuel et borderline, quoi.
Tout ce qu'on aime.
Donc c'est très décalé et très cynique. Mais bon, je pense que sur des générations, sur les 20-40 ans, je pense que c'est un peu carton plein, parce que les gens sont friands de ce genre de choses. Donc, c'est vrai que la saison 1, ça va être un coup de cœur pour nous, parce que vraiment, t'as dedans, c'est frais, on est hyper saturé par tout ce qui est super-héros actuellement, notamment Marvel et DC forcément, au cinéma, etc. Donc, voir arriver, alors en plus ça arrive via Prime, qui est un peu quand même l'outsider permanent, et qui met un petit coup de pied dans tout ça, en mode, hey, regardez, on a été chercher l'opposé, j'avais trouvé ça sympa, quoi. Donc voilà, l'histoire de la saison 1, c'était la découverte de cet anti-héros-là, et donc, on va dire, un petit peu l'histoire de la caution morale de la série, qui est Yugi, n'est ni du côté des boys au début, enfin, historiquement, ni des super-héros, mais qui se retrouve entraîné dans l'histoire, à chaque fois, un peu contre son gré, mais qui joue ce personnage-là. Et donc voilà, donc ils reviennent dans une saison 2. Alors dans la saison 2, forcément, on perd l'effet de surprise, ça y est, on sait que maintenant c'est une série qui est trash et tout, donc on perd un petit peu cet aspect là mais au début de la saison 2, je me suis vraiment dit, ah ouais, c'est moins surprenant, donc c'est quelque part un petit peu plus ennuyant, parce qu'on est plus tout le temps en train de se demander jusqu'où ils vont aller.
Ouais.
Parce que ça, on sait qu'ils peuvent le faire. Mais à partir du milieu de la saison, en fait, elle devient beaucoup plus acerbe, je trouve, la série, et beaucoup plus critique, notamment au niveau niveau politique américaine, puisque c'est pas du tout caché, il parodie complètement les campagnes républicaines actuelles américaines, avec des slogans qui sont « Make America safe again », donc voilà, ça parle à tout le monde, avec des propos justement où ça traite des groupuscules de white suprémacistes et compagnie. Donc c'est hyper hyper contemporain. Ils ont bien réussi à réimpliquer cette actualité là dans l'univers de la série via une nouvelle héroïne. Donc en fait elle gagne en profondeur ce qu'elle perd en surface quelque part. Parce qu'après, il garde le même rythme en termes de sanguinolent et de ce genre de choses. Donc voilà, en fait, au milieu de série, je commence à me dire, ah, mais c'est vraiment sympa, et ils sont sur une lancée qui est cool. Donc elle prend une dimension un peu plus politique, avec une belle montée en puissance jusqu'à la fin de la saison. Et clairement, quand on termine cette saison 2, on attend maintenant toujours... en direct, on se dit, vivement la 3, quoi. On n'est pas tellement en dessous de l'état dans lequel on était à la fin de la saison 1, sachant que la saison 3, on l'a fait, elle est déjà commandée, elle est actuellement en production, ou début 2021, peut-être. Bon, dans ces eaux-là.
Mais c'est bientôt, ouais.
Donc voilà. Donc qualitativement, bon, pour moi, il n'y a pas une baisse, parce que voilà, typiquement, elle a su se renouveler en allant quelque chose de plus politique. Moi, j'aime bien ça. Franchement, s'il continue, alors forcément, pas sur 25 saisons, mais... à être méga critique, il y a des sujets sur lesquels ils peuvent se lancer, même à l'international, je sais pas où, en rajoutant toujours leur point de vue comme ça, décalé et violent, moi j'adhère bien. Donc voilà, vous avez compris, pour moi c'est toujours pareil, allez-y, The Boys, ça vaut le coup, ça vaut le coup pour la saison 1, pour la découverte, parce que c'était différent de ce qu'on voit d'habitude, et ça vaut le coup de continuer en saison 2, parce que c'est devenu une critique de la société, et toujours de l'univers, bien entendu, des comics et des super-héros qui est forte. Donc voilà.
Oh non, mais ils l'ont bien réussi pour moi, leur saison 2. Il y a eu des personnages que je trouvais un peu ridicules dans la première qui sont mieux. Frenchie, par exemple. Frenchie, dans la première. Moi, j'ai un problème avec Frenchie dans la première, c'est que le
pas français.
Ouais, c'est ça. Le personnage est censé être français, mais du coup, la production a pris un acteur anglais, enfin, ou anglo-saxon en tout cas, qui parle français avec un accent à couper au couteau. Donc, ça sonnait complètement faux. Mais même lui, il a toujours été folle en saison 2, mais j'ai trouvé qu'il l'avait, il l'avait un peu réécrit, qu'il était plus sympathique et j'aimais bien le suivre. Enfin, ils ont gardé leur contre-pied et je trouve qu'ils ont réussi à élargir l'intrigue pour que ça puisse continuer plus tard et à garder leur fond.
Ouais, enfin, ils ont fait monter les un peu les seconds rôles, justement, type Frenchie, à se détacher de l'intrigue aussi, voilà, Yugi, Stella, pour d'autres histoires. Donc, ouais, c'est
cool. Non, l'histoire entre Homelander et Stormfront, je la trouve excellente. Enfin, vraiment, ils ont réussi à donner plein d'axes différents qui vont pouvoir pousser plus loin.
Avec un beau point Goldwyn.
Ouais. Et moi, j'ai trouvé très très réussi cette saison 2.
Ce qui est assez ouf avec cette série, je trouve, c'est que c'est un vrai millefeuille d'intention, quoi. Mmh. C'est clairement tout le côté sociétal, politique, mais aussi le rapport du coup à l'univers des super-héros tel qu'on le connaît aujourd'hui avec les films notamment, mais aussi tout l'aspect justement plus manipulation des foules, réseaux sociaux, la société qui fait des centaines et des centaines de produits dérivés. Enfin, dans la saison 2, je pourrais regarder le nombre de scènes où il n'y a pas un petit affiche avec un super héros qui vend un dentifrice, un aspirateur, un truc, machin. Partout, quoi.
Ils donnent vraiment du mal.
Tout en amenant dans cette saison 2 le discours de la société avec le directeur qui dit clairement on n'est pas entreprise de super-héros ou de marketing, on est une big pharma.
Ouais.
Et le reste, si on doit sacrifier toute la partie super-héros, on s'en fout tant qu'on vend des médocs, quoi.
Donc c'est à la fois une série qui met les pieds dans le plat et qui fait des chemins, qui n'est pas très subtile, je trouve, dans ce qu'elle fait, quoi. On peut pas trop dire que c'est subtil, mais en même temps, dans son propos et la manière dont elle construit tout ce truc, tu te dis, waouh, le nombre de sujets qu'ils traitent. Enfin, dans la saison 2, il y a une critique justement des films DC avec le tournage. Parce qu'eux-mêmes, du coup, jouent leur propre rôle dans des productions cinématographiques dans cet univers-là. Enfin, et rien que ce truc-là est génial, quoi. Parce que, en fait, tu vois que chaque support est créé pour faire passer des messages, justement, qui permettront de faire grimper la cote de popularité des super-héros et de la société derrière. Enfin, tout est très imbriqué et c'est vraiment très malin.
Alors que dans la saison 2, disparaît complètement leur côté super-héros. Enfin, leur côté héros, en fait. Si tu regardes, il n'y a quasiment pas d'intervention dans la saison 2 où ils vont sauver des gens.
Mais il y a tout ce rapport avec le fait qu'ils souhaitent, faire partie de l'armée américaine. Tu vois, et le rapport de est-ce qu'on sauve l'Amérique ou est-ce qu'on sauve le monde. Il y a ce truc-là. Mais effectivement, ils ne montrent pas trop ça.
Il n'y a plus trop de... on est là...
C'est peut-être un choix, parce que Wurz a raison. C'est vrai qu'ils prennent tellement d'angles qu'ils ont peut-être sacrifié cet angle-là pour
pouvoir... Je pense que ce n'est pas un sacrifice. C'est pour bien montrer qu'en fait, ces mecs-là n'ont plus d'héros que le nom.
Oui, aussi,
parce que ce ne sont plus que des produits marketing. C'est-à-dire que clairement, quand les mecs ils sont sur leur tournage de film, t'as envie de te dire, pendant ce temps-là, il y a sûrement quelqu'un à loin qui s'est pas agressé, faudra peut-être y aller. Et non, en fait, c'est pas un oubli pour moi. C'est juste, ils te montrent que leur boulot, en fait, c'est pas ça. C'est des produits marketing, les mecs.
Oui, qui sont, on le voit, placés dans certaines villes si les contrats sont signés. C'est vraiment toujours une histoire d'argent, quoi. Chenin, est-ce que toi, à tout hasard, tu as dit que tu n'avais pas regardé la série?
Non, je l'ai pas vu.
Est-ce que c'est un univers qui t'intéresse?
Oui, ça m'intéresse, j'aime bien les séries d'action, ça détend un peu. Après, c'est vrai que l'univers des super-héros est assez saturé.
Mm-hmm.
Donc ça peut être intéressant comme...
Là, pour le coup, c'est un vrai contre-pied.
En fait, ça fait penser à Watchmen, un peu, ce que tu me dis.
C'est autre chose, mais il y a un petit côté dans l'aspect très politique, très sociétal peut-être, de la série. Il y a ce petit côté-là qu'on ne retrouve pas du tout dans les séries DC et Marvel.
Donc, parce que DC et Marvel, quand ils essayent de faire de l'anti-héros, ils font du Deadpool.
Oui.
C'est l'humour.
Qui est plus de l'autodérision qu'une critique. Mm. Alors qu'il y a plus de critiques dans, dans The Boys. Quoi.
Ouais. Mm. Très bien. Merci du côté Zeda pour la recommandation. C'est clair que l'univers de The Boys va très certainement continuer à vivre sur Amazon Prime. Ils ont déjà annoncé, au-delà de la saison 3, un éventuel spin-off, donc autour d'une académie de super-héros.
Alors, ce qui est tout à fait possible, puisque dans le comics d'origine, les 7, donc le groupe de super-héros que suit la série, n'est que un des groupes
De
Vogt, en fait. Donc, dans le comics, il y a d'autres groupes, ils ont déjà des noms. Il y a, Alors c'est pas les Avengers, mais c'est quelque chose genre les Divengers ou un truc comme ça. Donc, encore une fois, c'est à peine masqué la reprise,
la référence.
La référence. Et donc ces groupes de ces autres groupes d'héros existent. Donc enfin faire un spin-off, c'est hyper simple. Quoi.
Ouais.
Tant qu'ils ne font pas un mash-up de tout à la fin,
c'est ça.
Façon Marvel, moi ça me va.
C'est un peu la question de quoi faire de ces personnages surpuissants, qu'est-ce qu'ils vont faire de la série. En effet, a priori, ça s'oriente vers quelque chose de très politique et c'est plutôt cool. Mmh. Rendez-vous l'année prochaine pour parler de la saison 3.
On sera là.
Passons donc à la suite du conducteur avec toi, Jouk.
Ouais.
Et la dernière série de science-fiction d'une nouvelle plateforme, du coup, puisqu'elle est sortie sur HBO Max, si je ne me trompe pas,
à l'origine. En France, chez OCS. Raised by Wolf, ouais, la dernière série de science-fiction qui a un petit peu fait parler d'elle. The door that finally opens with life flooding in, spilling out on the floor. Parce qu'elle a été réalisée par Ridley Scott, scénarisée par, je vais reprendre mes notes parce qu'il a un nom imprononçable, Guzikowski, qui est un scénariste qui a travaillé notamment avec Villeneuve sur Prisoners. Voilà. Alors, le pitch, c'est une série de science-fiction. La Terre, en fait, devient inhabitable du fait d'une immense guerre entre les athées et des hyper-croyants qui s'appellent les Mitraïques. Une guerre qui a duré longtemps, à tel point que donc, la Terre devient invivable. Et du coup, les athées envoient une navette vers Kepler-22b, qui est une planète qui existe vraiment, qui a été découverte par la NASA en 2011. Ils envoient une navette dedans, avec dedans deux androïdes, qui vont s'appeler tout bêtement Phaser et Mother, et des embryons humains, pour essayer de recréer la société sur une planète qui serait habitable. La série commence comme ça. Les Phaser et Mother vont donc élever ces enfants. Et quelques années après, vont arriver les Mitraïques avec un vaisseau qui s'appelle l'Arche, évidemment, vu qu'ils sont croyants. Et c'est toute la saison 1 va se passer sur ce rapport entre les enfants et les androïdes, sur le rapport des humains avec la religion, le rapport entre les humains, donc du coup ces androïdes qui sont profondément athées, qui ont été envoyés par les athées, et les Mitraïques qui vont arriver sur la planète. C'est une série, elle est dure à décrire, c'est vraiment, il y a très peu de choses, c'est très dépouillé, les décors sont extrêmement dépouillés, c'est parfois vraiment très très beau, ne serait-ce que le générique d'intro, il est magnifique, la musique est absolument géniale, l'esthétique est vraiment recherchée, on retrouve vraiment du Ridley Scott à la Prometheus, à ce genre d'esthétique-là. Le problème qu'il va y avoir de la série, c'est que justement, passer les premiers épisodes qui sont beaux, et où il se passe pas mal de choses, ça va pas mal tirer en longueur, et on a un sentiment dans la série qu'elle a vraiment été créée pour toutes les lubies de Scott. En fait. Même si c'est pas lui qui l'a écrite, on retrouve vraiment absolument toutes les lubies de Scott, le transhumanisme, l'hyper-religion, le rapport humain-androïde, c'est toute la saison se développe là-dessus. À tel point qu'elle perd du rythme. Il y a quand même quelques fusils de Tchekhov, si tout le monde connaît, c'est ce que c'est, qui sont disséminés ici et là pour mettre un peu d'entrain et qu'on a envie de regarder la suite. Il y a même des fusils de Tchekhov qui restent non élucidés à la fin de la saison. Donc on ne sait pas trop à quoi ils correspondaient. Mais voilà, moi j'ai eu un problème avec cette série, c'est qu'elle perd vraiment du rythme. Elle se termine sur un twist où évidemment on va regarder la saison 2 pour voir ce qui se passe. Mais il tombe un peu, j'allais pas dire un peu comme un cheveu sur la soupe, pas loin, mais il est vraiment là, cet endroit-là, pour pousser à regarder la saison 2. Quoi. Donc, je sais pas trop encore quoi en penser, je pense que j'aurais besoin de la saison 2 pour savoir vraiment ce que j'en pense de cette série. L'esthétique, c'est sûr, est géniale, mais c'est vraiment Ridley Scott, que j'ai énormément critiqué sur Prometheus, sur des choses comme ça, je lui reconnaissais au moins un esthétique de dingue. Vraiment dingue. Il y a que lui qui sait faire du futurisme aussi réaliste et chiadé et léché. Enfin, je trouve ça génial, son esthétique.
Oui, mais c'est tout ce qui lui reste.
Mais malheureusement, pas forcément. Des fois, il se rattrape pas si mal, mais bon, il a besoin. Là, je trouvais l'idée pas mal parce que Scott, moi, pour moi, il avait besoin d'un scénariste. Parce que Prometheus, ce que je lui reprochais, c'était le scénario. Et Gazikowski, est un mec qui a quand même quelques références. Mais tu sens que toute la série a quasiment été faite pour Ridley Scott et pour qu'il s'exprime et qu'il exprime toutes ses lubies. Et du coup, je ne sais pas trop à quel point le scénariste a pas pu s'exprimer dans son scénario, quoi. Ça reste quand même regardable. Je pense qu'il faut y jeter un coup d'œil si on aime la SF. Il y a vraiment des choses intéressantes. Le rapport entre Mother, qui est hyper protectrice, et les enfants est génial. Il y a plein d'axes qui sont vraiment très très bons. J'ai moins aimé les mitraïques, les hyper religieux, notamment avec l'acteur qui jouait Ragnar dans Vikings, qui a un gros rôle dans la série, mais qui, moi, joue très mal. Alors que j'ai retrouvé Ragnar, en fait. Quand il commence à péter des plombs, c'est que Ragnar qui pète des plombs. C'est exactement joué pareil. Mais bon, lui, mis à part tout le reste, Father et Mother, les deux acteurs qui jouent les androïdes, sont géniaux. Les dialogues sont vraiment... Il y a une tension, de Mother et de ses enfants qui est hyper protectrice avec eux, mais qui a une façon de leur parler qui est un peu bizarre, et d'état d'esprit, de mood quand elle leur parle par moment. Donc c'est vraiment très bien amené, très bien écrit là-dessus. Mais il y a le scénario qui vraiment perd un peu de rythme au fur et à mesure de la série.
Est-ce que les bandes annonces étaient assez particulièrement montées? Il y avait assez des effets je sais pas comment le décrire pour que ça soit compréhensible à l'audio, mais de saccader presque parfois même de.
C'est beaucoup plus linéaire dans la série.
D'accord.
Ouais. Je pense que la bande annonce a été montée pour donner un peu de rythme
dans la série. C'est très étrange du coup dans le montage. Ouais.
Mais il y a une espèce de. Dans les rapports entre les personnages, il y a quelque chose d'étrange dans cette série, qui pour le coup était très bien écrit. Mais la série n'a pas de rythme. Clairement, c'est une série qui est très très lente et qui prend son temps.
D'accord.
Conclusion, on n'y va pas.
Pour moi, si. Parce qu'il y a des angles qu'on voit pas ailleurs. Il y a une esthétique qu'on voit pas ailleurs. Il y a je pense, connaissant tes goûts, toi, par exemple, là, qu'elle va te faire chier, qu'elle va te saouler. Je pense. Je peux me tromper. Mais clairement, sur par exemple la relation entre les enfants et les robots, la série est extrêmement bien écrite. Vraiment.
Les enfants sont convaincants, parce que des fois les acteurs enfants peuvent, ça peut aussi être sortir un peu.
Non, là ça va. Vraiment ça va. C'est pas eux dont on est en train de dire, retiendra le nom, mais ça va.
C'est une série à titre perso qui m'intéresse pas mal, parce que passionné de l'univers de science-fiction, et effectivement l'esthétique avait l'air vraiment sympa. Déjà commandé pour une saison 2, donc a priori ça fonctionne. On sent que de toute façon HBO Max est en train d'essayer de se créer un catalogue aussi.
Je pense que la saison 2 va vraiment être la bascule. La saison 2 soit va réussir à intéresser, soit elle va garder le même rythme et les gens vont laisser tomber, je pense.
Il faudrait vérifier, mais il me semble bien avoir vu que pas mal d'épisodes étaient aussi réalisés par le fils
de Ridley Scott. Les deux premiers épisodes ont été réalisés par Ridley Scott, et les épisodes 3 et 4 ont été réalisés par son fils, et ensuite il y a d'autres réalisateurs
qui sont venus.
Bon, par contre, tu sens, je disais cette critique-là ailleurs sur un autre site, tu sens que tout le monde a fait « je vais faire du Ridley Scott ». Je vais pas sortir de l'esthétique ni de la réalisation de Ridley Scott. Donc si on te le dit pas, c'est impossible de savoir que tu as différents réalisateurs sur tout le long de la saison.
Ok. Est-ce que c'est un univers qui peut potentiellement vous intéresser, Shna, Tel Zeda Vous avez vu des images un peu?
Non, pour le coup, par rapport à ce que dit Juke, de toute façon, les séries à ventre mou qui sont juste jolies et... Enfin, je veux dire, si je veux m'infliger ça, je reprends Westworld.
Non, moi, ça ne me dérange pas que ça soit lent, mais il faut faire un choix. Il y a trop de choix en série.
Je pense qu'il faut donner sa chance au moins à l'épisode 1 et 2, qui sont très très bons. Et puis après, voir si on accroche ou pas. Mais en tout cas, l'épisode, c'est pas comme certaines séries très lentes où on parlait de Dark tout à l'heure en off. Dark, il faut persévérer et passer les premiers épisodes pour rentrer dedans. Là, c'est l'inverse. Les épisodes 1 et 2, c'est pas dur du tout d'être dedans et de suivre le truc. Et après, de voir si on pousse plus loin.
Ok, faites-vous votre propre avis et puis c'est ça exactement. Ça pourrait presque être le titre d'une émission, deux épisodes pour juger. Et venez sur Kifim du coup nous dire ce que vous en avez pensé et débattre avec les gens comme Juke qui ont regardé la série et qui l'ont noté. Merci Juke. On va passer à Chenin qui va peut-être essayer de nous faire frissonner.
Donc je vais vous parler de Haunting of the Hill House. Désolé, j'ai toujours du mal à prononcer ce genre de choses. Alors pour l'affiche technique, déjà pour commencer, c'est une série diffusée sur Netflix depuis 2018, enfin
la série, cette première saison, date de 2018. Alors je dis première saison parce qu'en fait ça fait partie, c'est une sorte de série de séries. La super série s'appelle The Haunting, tout simplement. Donc la hantise, comme vous pouvez dire, en français. La saison 2 vient de sortir ce mois-ci, en octobre, et s'appelle The Haunting of the...
Bly Manor.
Bly Manor. Merci beaucoup. C'est réalisé par Mike Flanagan, un jeune réalisateur de 42 ans que je ne connaissais pas, mais apparemment qui est assez expert de tout ce qui est épouvante, horreur, etc. Il a fait pas mal de films dans le domaine. J'ai lu qu'il avait fait la suite de Shining. On lui avait demandé de produire, enfin de réaliser la suite de Shining, ce qui était quand même un gros enjeu. Et pour la petite anecdote, ce qui est assez marrant, c'est qu'il est né à Salem. Donc je pense qu'il a déjà...
prédestiné.
Voilà, il est prédestiné.
C'est un fils de sorcière.
remarque importante aussi, on est sur des saisons stand-alone, un peu comme True Detective. Mm-hmm. Ce qui pour moi est vraiment un avantage. C'est-à-dire qu'on n'a pas un effet d'annonce à la fin de la série, à la fin de la saison. Ils vont continuer, à mon avis, si ils ont de quoi continuer, si ça fonctionne bien, etc. Mais on n'a pas une promesse en suspens.
Mommy. It's time to wake up, sweetheart.
Pour l'histoire, c'est une série donc qui raconte des événements qui se situent... Enfin, là, je parle de la saison. Hein, donc, ça raconte des événements qui se situent entre le présent et le passé. C'est quelque chose de très important dans la série, dans The Haunting of the Hill House. On a vraiment un mélange constant entre le présent et le passé. Dans chaque épisode, on va avoir des flashbacks. Présent, donc c'est notre époque. En fait, on voit se réunir une fratrie de 5 frères et sœurs. D'une grande famille qui a apparemment vécu un traumatisme dans leur enfance. Donc chacun a vécu différemment, raconte différemment ce traumatisme. Nous, en tant que spectateurs, on découvre petit à petit ce qui s'est passé, mais avec des flashs, avec des extraits, c'est-à-dire qu'on n'a pas la solution tout de suite. Effectivement, c'est quand même l'élément le plus important. Toute la série, toute la saison va nous raconter finalement ce qui s'est passé. Pourquoi ils sont traumatisés, et les événements du présent sont mêlés avec les événements du passé. Donc ça, c'est une des forces de la série, c'est de vraiment mélanger les lieux et les époques. Le personnage finalement principal de la série, c'est le manoir, c'est la maison hantée. Donc on l'aura deviné, c'est une histoire d'épouvante qui parle de fantômes. Mais on n'est pas non plus sur des histoires de fantômes classiques. Alors, on va avoir finalement beaucoup de clichés en termes d'histoire de fantômes, parce que maison hantée, en général, c'est difficile de sortir des clichés. On a des couloirs sombres.
Des portes qui grincent.
Des portes qui grincent. On a la fille qui regarde à gauche dans le couloir, alors que la caméra nous montre que c'est à droite, qu'il y a quelque chose qui fait peur. En général, les choses qui font peur, on les voit peu, justement. Mais là où ça sort un peu des clichés, c'est la manière de réaliser justement où on va rentrer très vite dans la psychologie. Et la psychologie des personnages, leur histoire, leur relation entre eux est vraiment importante. On essaye de comprendre finalement qu'est-ce qui a pu se passer et pourquoi on doit avoir peur finalement. Pourquoi eux, ils ont peur? Pourquoi certains même d'entre eux nient ce qui s'est passé? Et toute leur histoire future, jusqu'au présent qu'on découvre, est liée à ce qui s'est passé dans leur enfance. Par exemple, il y en a une qui est devenue, comme on appelle, messagiste, voilà. Non, même pas, embaumeuse, c'est-à-dire qu'elle embaume les morts.
Ah oui.
Et en fait, la série est plus qu'une histoire de fantôme, c'est une histoire de deuil. C'est-à-dire que ça parle des morts, ça a une connotation assez triste à ce niveau-là, assez mélancolique. Petite parenthèse aussi sur les références. On est là clairement sur des références littéraires, puisque la série est adaptée en fait d'un livre qui s'appelle lui-même The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, qui a été écrit en 1959. On peut penser aussi à La Tour des Roues d'Henry James, qui a été écrit en 1898 et qui a donné au cinéma Les Innocents en 61 et The Others, réalisé par Amenábar. Donc on est un peu dans cette thématique, c'est assez proche de ce genre d'histoire. Alors maintenant, mon avis sur cette série, enfin, clairement, moi, j'ai adoré. Il y a peu de séries ces dernières années que j'ai autant aimé. On est vraiment sur très bonne réalisation, c'est vraiment de très bonnes factures, bon jeu d'acteur. Et le fait justement qu'on arrive à éviter les clichés, même si on les a quand même, on les a un minimum, c'est le prérequis pour ce genre de série. Moi, j'ai vraiment accroché. Je ne suis pas fan d'horreur. C'est-à-dire que les films d'horreur, les séries d'horreur, ce n'est pas mon truc. La plupart du temps, actuellement, je trouve que les séries d'horreur ont tendance d'ailleurs à viser un public assez jeune, adolescent, qui va chercher les grands frissons. Alors que là, on est sur une série, je trouve, plus adulte. Et c'est ça qui est aussi vraiment intéressant. Et pour finir, dans cette série, donc, il y a de 10 épisodes, avec des épisodes qui durent entre 35 et 55 minutes.
Ah oui.
C'est très large. Ça aussi, je trouve que c'est une bonne idée, parce que s'ils ont fini de dire ce qu'ils avaient à dire dans la série, dans l'épisode, ils le font, ils s'arrêtent là. Et les gens ont beaucoup remarqué un épisode qui sort du lot, c'est l'épisode 6, qui s'appelle Les Deux Tempêtes, et qui, en fait, est composé de 5 plans séquences qui va mélanger justement les lieux et les époques sans faire de coupure. Et ça, c'est un tour de force que j'ai trouvé exceptionnel, et on a des moments où la caméra tourne autour des personnages qui sont en train de s'engueuler, et à chaque fois la caméra va filmer le visage d'une des personnes, et on est pris, on est happé par ce moment-là, et là on est vraiment sur un moment où on n'est pas dans l'épouvante, mais on est angoissé par ce qu'ils sont en train de se dire et de démêler dans l'histoire de la famille. Donc voilà pour mon avis. Pour conclure, un magazine que je ne citerai pas, sauf si vous insistez, a comparé cette série à un Six Feet Under angoissant.
Ah, sacrée référence pour le coup, effectivement, ouais.
Ok, ouais, non, mais j'avais noté, moi, à voir, je l'ai croisé la saison qui vient d'arriver, The Bly Manor, je crois. Mm-hmm. Du coup, je l'avais noté à voir. J'avais pas tilté que c'était une série du style American Crime Story avec une histoire par saison, mais pourquoi pas.
Alors, j'ai regardé pour l'épisode de Bly Manor. Ça commence encore une fois très très bien. Je pense qu'on est dans la même lignée. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont pris quasiment les mêmes acteurs, mais alors que c'est pas la même histoire.
Mm-hmm. Ok.
Et donc chacun a un rôle complètement différent par rapport à la première.
Bon,
donc
c'est
assez sympa, je trouve, comme idée. Et donc le premier épisode que j'ai vu est vraiment pas du tout dans l'épouvante, ouais, pour le moment. On est stressé, mais il n'y a pas de gore, ouais, à aucun moment.
La série a aussi été remarquée parce qu'elle avait la capacité, et peut-être que du coup tu vas le confirmer, de cacher dans son décor à chaque épisode, et peut-être même de manière multiple, des fantômes ou des apparitions qu'on ne voyait pas au premier abord. Est-ce que toi tu as fait attention à ce genre de choses?
Alors, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas remarqué. Je pense que j'étais trop dans l'histoire pour le voir.
Ouais. Ouais. Apparemment, vraiment, la série fait ce truc assez génial.
C'est leur petit gimmick d'aller vraiment planquer.
C'est ça, ouais. Et beaucoup de gens disent qu'en effet, quand tu regardes la série, tu ne le vois pas, parce que tu te concentres sur ce qui se passe. Et quand tu la revois ou quand tu le sais, tu ne peux plus voir que ça. Non, parce qu'il n'est pas non plus ultra caché, quoi.
Mais moi, j'aime bien justement réussir à avoir peur avec des petits détails où finalement, tu n'es pas sûr d'avoir bien vu.
Ouais.
Là, il y a un épisode où une voiture passe rapidement devant quelqu'un et tu vois le reflet de quelqu'un dans les vitres, mais c'est une demi-seconde. Et tu dis, j'ai bien vu, hein, t'as envie de voir au ralenti.
Ouais, je suis pas très client de manière générale de séries d'horreur, parce que clairement, je suis un peu une flippette de ce genre de cinéma et de séries, mais effectivement, le fait qu'il y ait à chaque fois, que ça soit un contexte, mais qui raconte une histoire de personnage, m'intéresse pas mal et je pense que je tenterai l'une ou l'autre de ces itérations.
Bah, en fait, ce qui est terrible, c'est que toutes les scènes d'épouvante sont vues à travers les yeux d'enfants, en fait, dans Hill House. Et on se met à leur place, on se dit comment... Effectivement, on est traumatisé si on vit un truc comme ça. Et je pense que les enfants, d'ailleurs, sont plus réceptifs, je ne dis pas devant la série, mais s'ils sont devant un phénomène paranormal, ils vont peut-être avoir moins peur que nous, parce qu'ils ont de l'imagination, mais en même temps, ils n'ont pas assez de repères, etc. Et là, c'est un petit peu aussi ce qu'ils expliquent. C'est qu'ils essayent finalement de s'entraider, de pas paniquer, etc. Mais il y a des scènes où il suffit d'un petit détail pour se dire, putain, mais ça fait flipper, quoi. C'est-à-dire qu'un gamin qui se cache sous un lit et il voit au loin quelqu'un qui se rapproche et il devine que cette personne, ses pieds ne touchent pas le sol.
Ah oui.
Rien que ça, okay. Voilà, tu te dis.
Vers ce sol, il est pas capable.
C'est ça. C'est une boquette.
Non, mais à tenter, ouais.
Atelza, toi, c'est un genre d'univers qui t'intéresse ou.
Eh ben, en fait, je sais pas. Non, tu vois, je me manifeste.
L'épouvante, l'horreur.
Je me manifeste pas, je suis pas gêné par l'épouvante, l'horreur. Mais je suis pas non plus hyper hypé, là, par le truc. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que, en ce moment, je suis plus en recherche de séries aussi que je regarderai avec mon épouse. Et ça, clairement, ça passera pas chez elle. Et du coup, je sais pas, c'est peut-être juste pas le bon moment en ce moment pour. Je sais pas, j'ai vraiment. C'est pas le genre de choses que je vais chercher en ce moment. Et puis, j'ai du mal à visualiser quelque chose de stressant, d'horreur ou d'épouvante sur une série. Autant un film et tout, ouais, je suis client, mais en série, je sais pas, je visualise pas, du coup, je suis pas hypé. Alors, enfin, peut-être que j'essaye ou autre. Bon, comme je disais tout à l'heure, il y a de la production, c'est pas ça qui manque, donc c'est pas dans ma watchlist.
Ok, très bien, bah, tu as le droit.
Je vais me tenter, moi, dans la baraque, là, au milieu des bois, tout seul.
C'est ça.
Je suis tout seul ce week-end en plus, dans le noir, ça va être très bien.
Alors, des scènes épouvantes, il en existe d'autres. Hein. Il y a American
Horror Story, oui, ouais,
que j'ai passé. Ouais, bah, L'Exorciste. L'Exorciste, c'est une série, ouais, c'est bien, qui a deux ou trois saisons.
C'est vrai, À tester, Halloween se rapproche. Peut-être que vous avez un programme de soirée d'épouvante devant votre petit écran. N'hésitez pas à nous en faire part.
Quand je verrai tomber tous les avis favorables sur la fiche de la série que Julien aura dit j'aime, tout le monde aura dit j'aime, je dis bon, je me laisserai peut-être tenter.
Sa chance. Très bien, merci Chenin pour cette recommandation qui donne bien envie. Pour conclure cet épisode, moi je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas très récent, puisque c'était disponible dès la sortie de la plateforme, mais qui a été un de mes gros coups de cœur de cette année en série. Comme je l'ai dit au début, là, les dernières séries que j'ai terminées, j'ai pas particulièrement envie de m'épancher dessus. Je vais vous parler de la série sur Disney+, Les Imagineurs.
There's really no secret about our approach. We keep moving forward. We're always exploring and experimenting. We call it Imagineering.
Vous en avez peut-être entendu parler, vous en avez peut-être pas entendu parler.
Suite à ton annonce, moi, je suis allé voir quand même la moitié de l'épisode 1, histoire de voir ce que c'était. Quand même. Ouais. Du coup, je vois ce que c'est.
Peut-être que vous avez pas encore craqué pour un compte Disney+, peut-être que vous avez ouvert un compte Disney+, pour les films Disney principalement, et que vous n'avez pas cherché... d'autres contenus. C'est vrai que sur cette année 2020, au-delà des classiques, on va dire, qu'il y a sur la plateforme, le contenu a été assez pauvre, j'ai trouvé personnellement. Mais la série donc sur les Imagineurs fait partie des choses, je trouve, à voir avant de se désabonner éventuellement.
C'est
une série documentaire en 6 épisodes qui raconte en fait tout simplement le quotidien de ces gens. De ces ingénieurs, en fait, hein, qui ont été chargés par Walt Disney de créer des parcs d'attractions Walt Disney tels qu'on les connaît, quoi. Donc, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et qui ont, du coup, inventé ce terme des Imagineurs, qui, en lui-même, je trouve, renferme bien les deux notions de ces gens qui vont être des têtes, hein, clairement. C'est des ingénieurs ultra qualifiés qui vont faire innovation sur innovation, et pas que dans le monde du divertissement. Enfin, quand on voit ce qu'ils vont produire comme éléments, on peut se demander ce qu'ils foutent là chez Disney et pas dans des milieux type NASA ou l'automobile ou je ne sais quoi, parce que vraiment ils vont très loin. Et la partie imaginaire, puisque leur but, ça va être de transposer dans le réel les univers imaginaires des films Walt Disney et les faire de la manière la plus amusante, distrayante, transparente, presque, j'ai envie de dire, possible. Et on va suivre comme ça, donc, à travers ces 6 épisodes, la première vague, j'ai envie de dire, les premiers parcs, où dans les années 60, il y a vraiment tout à faire, en fait. Hein. Ça, c'est un des trucs les plus hallucinants, je trouve, de la série, qui est un petit peu en marge, mais voir le génie de Walt Disney, qui est un personnage qui est potentiellement décrié par ailleurs, mais on voit clairement Walt Disney et son frère qui marchent dans un champ, dans un pays, une zone des États-Unis où il n'y a rien, et qui disent là, on va construire un parc de divertissement qui va faire venir des milliers, des millions de personnes, quoi. Et les gens l'ont suivi à cette époque-là. Et déjà, ça, c'est le premier truc incroyable de cette série, c'est de montrer comment les gens se sont fédérés autour de Walt Disney et ont vraiment cru en cette personne qui était visionnaire et qui n'avait pas à la base des moyens démesurés, qui a vraiment tout misé sur la croyance que les gens avaient envie de retrouver cette Amérique fantasmée. Il y a aussi vachement ça, cette Amérique des années 30, cette Amérique qui n'existe pas finalement, mais que lui voulait recréer dans ses parcs d'attractions. Donc ça, il y a ce premier truc qui est hyper intéressant dans le personnage de Walt Disney, dans l'héritage qu'il va donner derrière jusqu'à nos jours avec les différentes personnes qui vont lui succéder, qui vont très clairement porter sur leurs épaules le poids de cet héritage. Walt Disney, à un moment donné, décède. On voit bien à quel point ça rebat vraiment les cartes de comment on fait maintenant, quoi. Les gens se posent vraiment la question de comment on réinvente ce truc sans la personne qui l'a créé. Et puis derrière, toutes les luttes d'ego qui vont... C'est la première partie, puis la lutte de pouvoir derrière entre les différentes personnes qui vont lui succéder, qui vont agrandir l'empire de Disney à travers d'autres parcs aux États-Unis et puis ensuite à travers le monde, avec notamment, il y a un épisode qui est assez savoureux sur l'implémentation de Walt Disney à Paris, et on voit que les Français font leur français, c'est-à-dire qu'à l'époque, on s'en souvient pas, mais il y a eu des grèves, des manifestations, des gens qui ont été vraiment contre l'installation de Disney oui, à Paris, parce que bah, c'était l'impérialisme américain, quoi. Donc, ouais,
Et à tel point que je crois que c'était le seul, à cette époque-là, c'était le seul parc à avoir un nom différent des autres.
Exactement.
Ça s'appelait Euro Disney, ça s'appelait pas Disneyland Paris, ça s'appelait Euro Disney au début.
Et qui a mis vachement de temps à être rentable, et puis derrière des parcs au Japon, et le dernier en date, un parc en Chine qui a été un des projets les plus durs à mettre en place, évidemment, pour pénétrer le marché chinois. Et donc il y a tout le reste, évidemment, qui est de voir comment les gens qui donc créent les attractions ont du coup réalisé ces percées technologiques innovantes dans ce domaine-là, avec la création d'automates. Il y a une attraction aux États-Unis où on voit tous les présidents américains qui existent encore aujourd'hui, hein, avec du coup Obama, Trump, etc. Et quand on voit la création de ces automates, on parlait de Westworld il n'y a pas longtemps, ben on y est presque. Enfin, c'est impressionnant pour l'époque de voir à quel point ils ont réussi à créer. Alors bien sûr, il y a une vallée dérangeante, il y a un espèce de truc où on regarde, on voit bien que c'est pas des êtres humains, mais c'est ultra bluffant pour l'époque. C'est tout un système mécanique de marionnettes ultra évolué, et c'est que ça, comment ils ont révolutionné la montagne russe, comment ils ont révolutionné la mise en scène des différents univers, jusqu'à les derniers épisodes qui parlent du parc Star Wars Galaxy's Edge, qui a en son sein des attractions qui mélangent montagne russe, éléments projetés sur différents décors qui, eux, sont construits en dur, enfin, réalité augmentée, réalité virtuelle. Bref, aujourd'hui, les technologies modernes se rajoutent au génie mécanique que les différentes personnes peuvent avoir dans la création des attractions. Et vraiment, quand on s'intéresse un peu à l'envers du décor, moi, je suis hyper fan de tout ce qui est making of de films, par exemple. On voit les gens qui font des maquettes, qui font des trucs comme ça. Ben là, c'est un peu ça, mais à l'échelle de parc, d'un parc démesuré. Cette success story des parcs d'attractions Disney. Donc voilà, 6 épisodes, ça passe très vite. Et je trouve que c'est hyper intéressant, au-delà de l'univers Disney, de voir comment... des gens rivalisent d'imagination et d'intelligence pour prototyper des trucs et faire rêver les gens. Parce qu'au final, c'est ça, l'idée finale du truc, c'est que toute cette innovation soit la plus transparente possible et qu'on soit immergé dans un univers en particulier. Donc je vous recommande chaudement cette série documentaire avant éventuellement soit d'embrayer sur la saison 2 de The Mandalorian ou de quitter Disney+, parce que vous en pouvez plus, mais c'est à voir.
Par contre, il n'y a pas de regard critique puisque c'est réalisé par Disney.
On pourrait le croire, je pense qu'évidemment il y a des choses qui sont cachées sous le tapis, mais ça reste relativement transparent, je trouve. En tout cas, j'ai été parfois assez étonné, en effet, de quand même la distance qu'il pouvait y avoir sur les dysfonctionnements, sur les mauvais choix que certains font à certaines périodes. Après, évidemment, oui, on est sur une production Disney, pour Disney+, ça peut pas être totalement objectif.
Mais c'est pas du même intérêt parce que enfin, les imaginaires, moi, du peu que j'en ai vu la moitié du premier épisode, je me rends pas, enfin, on se rend pas compte. On réalise pas forcément à quel point ils ont un métier à part. Mm. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont extrêmement dans le réel parce que dans le premier épisode, ils parlent justement du parc de Shanghai, qui a quand même coûté 5 milliards de dollars à développer. Donc, c'est des gens qui sont vraiment dans le réel, à calculer, à savoir ce qu'il faut faire et à pas faire de conneries. Mais qui sont aussi, enfin, ils ont un pied dans le réel et un pied dans l'enfance. Il faut qu'ils pensent à des trucs de gamins, ouais, des trucs qui vont plaire aux adultes, au côté enfantin des adultes, dans le côté Disney. Et du coup, ils sont tout le temps en train de naviguer entre le côté Disney et le côté réel thune. Et ça leur donne un métier vraiment à part.
Mm-hmm. Il y a un vrai, enfin, ils explorent le côté financier de la chose. À part le coût, genre, est-ce qu'ils parlent un peu du ROI,
moi, de ce que j'ai vu, ils rentrent pas dans le détail, mais après, je vais entier, tout le monde.
Non, effectivement.
Ils parlent pas de l'aspect rentabilité des parcs.
Alors, ils en parlent un petit peu aussi, justement, en disant notamment que le parc de Paris a été très longtemps. En fait, il y a toute une vraie période dans les années 90 où la présidence de Walt Disney Company est gérée par deux personnes et où clairement. On voit que le parc de Paris est une épine dans le pied de ces deux personnes parce que c'est pas rentable, ils n'arrivent pas à rentabiliser le truc. Aussi parce qu'ils ont fait notamment les mauvais choix de créer le deuxième parc à Paris qui était plutôt sur le cinéma et tout ça, qui a été un vrai échec pendant des années avant qu'ils le changent complètement. Donc ils abordent quand même ces sujets-là, en effet. Après, ils ne disent pas combien ça coûte, combien ils investissent, tout ça, dans le détail, mais ils parlent quand même des échecs et des réussites de ce parc-là, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est en miroir de ça, alors c'est pas une série, donc je vais pas m'apesantir dessus, mais il y a aussi un autre, un film, là pour le coup documentaire, qui est plutôt sur les gens qui font les films d'animation, entre du coup les années, enfin depuis...
L'évolution de la technique.
Alors depuis Taram et le Chaudron Magique jusqu'à Le Roi Lion, c'est-à-dire en gros toute la période creuse de Disney, avant qu'ils refassent des films à succès de type La Belle et la Bête, Mulan, Le Roi Lion. Et en fait, on voit vraiment à quel point il y a aussi une grosse compétition entre les gens qui font les films d'animation Disney à cette époque-là, qui sont gérés par leur propre directeur, et ceux qui font les parcs d'animation, qui utilisent la matière des films, mais qui sont aussi presque l'âme, autant l'âme de Disney que les films. Et on sent qu'il y a une grosse compète de ce point de vue-là, et les deux sont assez complémentaires, je trouve, dans leur la vision de la manière dont c'est géré, aussi humainement, les guerres d'ego entre les différents directeurs et tout ça. Ouais.
Mais c'est intéressant, voilà. Moi, je pousserai peut-être plus, je pense que je pousserai plus loin le visionnage, parce qu'il y a plein d'aspects, en fait, donc c'est intéressant.
Les premiers épisodes sont les plus intéressants, parce qu'il y a vraiment le côté genèse, invention, les mecs qui font des trucs de fou à l'époque. Les derniers épisodes sont plus aujourd'hui, donc on comprend mieux qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui sont un peu plus... un grand public, on va dire, mais je recommande, voilà. Je sais pas si autour de la table, vous, Disney+, c'est une plateforme pardon, que vous avez un petit peu explorée, pas du tout, sur cette année. Ouais,
pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout non plus, et je suis pas très attiré.
Ouais, je suis pas... En fait, il y a pas de... Alors, c'est pas que je suis pas... Mais c'est plus en termes de contenu, on a vraiment l'impression que, oui, ils ont un super catalogue, qu'ils ont vidé des autres plateformes pour les mettre chez eux, mais du coup, c'est du contenu qui est déjà vu. Moi, The Mandalorian, ça me hype pas du tout. Et du coup, on les voit, parce que c'est pas le premier exemple, cette série, on les voit essayer de faire du contenu sur leur contenu, en faisant des séries à peu près à propos d'eux-mêmes et tout. T'as un peu l'impression que les gars, ils se regardent le nombril et ils tombent sur eux-mêmes, quoi.
C'est le problème de leur plateforme, mais ça manque de contenu originaux. Et c'est vrai que The Mandalorian, même si elle est bien, et que elle toute seule, elle peut pas faire abonner les gens, quoi. Donc,
ouais, et puis il y a un moment, il va falloir sortir aussi de tout un genre de l'univers Disney, aussi large soit-il, quoi. C'est-à-dire, si c'est toujours que du Disney, qu'il fait du Disney, etc.
Je pense qu'ils le font, parce que Disney, ça a quand même toujours été des bons producteurs.
Ils ont racheté énormément de choses. Donc, ils n'ont pas que ce qu'ils ont fait, eux. Ils ont matière, mais là, moi, ce que je constate depuis la sortie de cette plateforme, c'est que c'est Disney. Et
ouais. Aujourd'hui, la plateforme, elle est découpée en univers. Hein, donc, il y a l'univers Disney, l'univers Pixar, l'univers Marvel, l'univers Star Wars et l'univers... National Geographic, forcément que du coup, ce qu'on retrouve sur la plateforme, c'est du contenu de l'univers Disney de manière très très élargie. Donc, il n'y a pas un éclectisme très fort dans les genres qui sont abordés. On est dans les genres de l'imaginaire. Il y a des trucs sympas sur National Geographic quand on a envie de peut-être un peu plus dans l'histoire ou
la géographie.
Ou la géographie. Non, mais le côté. Enfin, il y a des documentaires qui sont plutôt intéressants. Ouais. Mais voilà, au-delà de ça, en effet, ils tournent un petit peu en rond. Je trouve que là, il va y avoir une avalanche de séries plutôt Marvel, Star Wars qui vont débouler. On en a parlé avec The Boys, on en a déjà un petit peu marre. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que pour l'instant. Je ne sais pas trop quel est le bilan grand public, on va dire, de Disney+.
Pour moi, c'était, enfin, je regrette ce choix d'être parti faire leur propre plateforme. C'était, enfin, voilà, il y a des, il y a des acteurs. C'était bien qu'il y ait une répartition de ces contenus un peu sur les autres acteurs aussi. Isoler comme ça leur contenu sur une plateforme, je suis pas très convaincu, quoi.
Malheureusement, ça risque pas de s'arrêter. Tout le monde est en train de faire sa propre.
Mais qui peut se permettre d'avoir un abonnement sur toutes les plateformes, quoi.
Bah oui, effectivement, complètement. C'est ça qui va être compliqué.
Bah c'est, enfin, là, de toute façon, c'est prouvé. Le piratage est reparti à la hausse aussi du fait de ça, parce que les gens ont une plateforme et piratent les autres, finalement. Donc, voilà. Après, dans tout ça, je trouve qu'il y a des plateformes. C'est intéressant aussi, on digresse, de voir les évolutions des plateformes, parce qu'on voit que Netflix, ils sont à fond dans la production de leur propre contenu. Il y a toujours du nouveau contenu qui se fait, pour moi, souvent au détriment de la qualité. Mais voilà, des nouveaux films, il y en a tous les jours
sur les plateformes. Ils ont compris que s'ils font pas ça, les gens se barrent, quoi.
Et à côté de ça, je trouve que, pour le coup, j'aurais envie de pas les aimer, mais je trouve que Prime, ils ont tendance à faire du bon boulot. Alors, pas en termes d'interface, mais en termes de contenu, en allant chercher du contenu, des productions comme The Boys, qui viennent clairement foutre un coup de pied au cul aux autres en disant on prend le contre-pied. Miss Maisel, en allant récupérer aussi des contenus qui sont. Des trucs un peu vieux, mais que les gens ont envie de revoir et qui sont hyper qualitatifs et tout. Je trouve que voilà, ils ont une façon d'aborder le marché que je trouve hyper intéressante, qui est pas du Disney qui fait du Disney, qui est pas du Netflix qui se met à faire du Netflix pour remplir la plateforme. Et eux, ils disent, nous, on va aller plutôt chercher des trucs qui ont marché et qu'on peut remettre au goût du jour, quoi. Donc, dans cette guerre des plateformes, j'aime bien leur démarche.
Bah, je suis comme toi, mais cela dit, il faut reconnaître que c'est Netflix qui écrase tout le monde, quoi. Donc,
en termes de marché encore.
Ouais, qui a raison.
Moi, j'ai eu longtemps un abonnement que Prime. Et c'est vrai que là, on a un abonnement Netflix aussi. Et tu vas plus facilement sur Netflix parce que le catalogue est beaucoup plus large. L'interface est quand même aussi un peu mieux pensée, même si je la trouve pas parfaite. Et là, par contre, voilà, t'as ces deux abonnements-là. Il n'y a pas de place pour un troisième, quoi.
C'est la grosse problématique actuelle, effectivement. Dites-nous sur le site, en tout cas, si vous avez trouvé des pépites sur Disney+, notez-les sur Kifim, et puis on en discutera.
Ouais, et je vous invite, je l'avais déjà fait dans le podcast précédent, on a lancé un Discord, donc si vous voulez discuter de ces séries, de ces plateformes, de tout ce dont on a pu parler, rejoignez-nous, on met des liens dans la description.
Allez. Merci messieurs
pour merci à bientôt.
Ciao. Recommandations et à bientôt.
Salut.